Voilà, donc pour terminer les catéchèses, eh bien j'ai voulu terminer le document du Concile sur l'Église, donc ce qui s'appelle Lumen Gentium, hein, Constitution dogmatique sur l'Église. Donc, alors que les fois précédentes, j'ai fait un chapitre par catéchèse, là, j'ai fait trois chapitres pour aujourd'hui. Bon, ce sera très rapide et très bref, très résumé. Donc le chapitre 6 traite des religieux. Donc avant, on a vu l'appel de tous à la sainteté, hein, l'appel universel à la sainteté de tout chrétien, tout baptisé. Avant encore, on a vu les laïcs. Avant, on a vu la structure de l'Église, c'est-à-dire les évêques, les prêtres et les diacres. Et puis avant encore, on a vu que l'Église était peuple de Dieu. Et encore avant, la première séance, c'était que l'Église, c'est quelque chose qui ne peut pas, c'est pas simplement une association, mais c'est un mystère, le mystère de l'Église, quelque chose qui a été voulu par Dieu, qui est sanctifié par Dieu et qui est conduit par Dieu. Et dans la Bible, il y a plusieurs images qui en parlent. Voilà, donc les religieux. Alors les religieux ne font ni partie, ils ne sont pas un corps intermédiaire entre les laïcs et les clercs, et le clergé. Donc entre les, comme s'il y avait les laïcs, les baptisés, dont vous êtes la majorité, faites partie. Ensuite, les religieux un petit peu au-dessus. Ensuite, les prêtres et les évêques. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Les religieux, c'est soit des laïcs, soit des clercs. Ils sont l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des religieux et les religieuses, par exemple, qui font partie des laïcs. Et puis, il y a certains religieux qui sont diacres, prêtres. Alors, quand ils deviennent évêques, c'est un peu particulier parce qu'ils perdent leur lien avec leur communauté religieuse. Puisque, en tant que pasteur de l'Église, successeur des apôtres, ils retrouvent une liberté plus grande pour pouvoir conduire l'Église. Mais en tout cas, les religieuses font soit partie des clercs, soit partie des laïcs. Donc, ce n'est pas un corps intermédiaire. Mais c'est une forme de vie qui est née dès le début de l'Église et qui l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, même si Jésus l'avait un peu annoncé, hein, en disant qu'il y aurait certains qui seraient eunuques pour le royaume, donc qui choisiraient l'état de vie du célibat pour le royaume. C'est une forme de vie qui est née sous l'impulsion du Saint-Esprit et qui est une imitation de Jésus au plus près. C'est-à-dire que c'est une méditation de ce que Jésus a vécu et on essaie de vivre au plus près de la forme de vie de Jésus. Donc le célibat, puisque Jésus n'est pas marié, la pauvreté, puisque Jésus le dit, il est resté, et puis même dans sa divinité, il s'est complètement appauvri pour devenir homme, et puis enfin l'obéissance, puisque Jésus n'a cherché que l'obéissance au Père. Alors, la forme de vie religieuse est très variée dans l'Église, plein de formes, et qui s'est développée aussi au cours de l'histoire de l'Église. Hein, au début, on avait quelques moines dans le désert d'Égypte. Puis petit à petit, ils se sont mis en communauté. Puis ensuite, il y a les grands ordres monastiques qui sont nés, avec Saint Benoît pour l'Occident, qui a beaucoup d'influence, etc. Et ça s'est développé jusqu'au XIXe siècle. On avait les congrégations très très nombreuses dans nos régions, congrégations apostoliques, qui partaient dans le monde entier, mais qui aussi servaient l'Église locale. Et par chez nous, on a beaucoup de personnes, et surtout de femmes, qui se sont engagées dans cette forme de vie. Et puis encore aujourd'hui, il y a des nouvelles formes de vie religieuse qui sont en train de naître dans l'Église, que l'Église reconnaît petit à petit. Donc c'est une forme variée, une forme de vie qui imite le Christ, mais qui est en même temps très très divers dans sa mise en pratique et qui s'est développée dans l'histoire de l'Église. Alors ce que dit aussi ce chapitre sur la vie religieuse, c'est que cette forme de vie est très importante pour l'Église. Elle est indispensable à sa vie et qu'on ne peut pas simplement considérer que l'essentiel c'est qu'on ait des prêtres, puis qu'on ait des paroisses, et puis que s'il n'y a plus de religieux, ben, tant pis, de religieuses, c'est pas trop grave. L'Église a besoin d'eux parce qu'ils sont une forme de vie voulue par le Saint-Esprit et parce qu'ils sont stimulants pour l'ensemble des chrétiens, que ce soit les prêtres, que ce soit les clercs, que ce soit les laïcs. En voyant les religieux, on se dit, mais est-ce que moi, ma vie, je l'ai donné comme ça à Dieu. Même si ce n'est pas dans, tout à fait de la même manière, puisque je, quand on est marié. Ou... Mais est-ce que quand même je suis dans le don de moi-même à Dieu ? Donc c'est un signe très fort qui porte, dit le Concile, qui porte, qui donne, qui a une influence sur l'Église. C'est parce que c'est un signe de don de soi à Dieu qui a une influence très forte dans l'Église. Voilà. Ensuite, l'Église, quel est le lien de... Alors c'est le numéro 45, quelle est l'autorité de l'Église à l'égard des religieux ? Alors, comme c'est une œuvre du Saint-Esprit, comme c'est sous l'impulsion du Saint-Esprit un appel déposé dans les cœurs, l'Église, depuis l'origine, s'est contentée d'accueillir ce que le Saint-Esprit mettait dans les cœurs de tel ou tel, et d'accompagner ce désir de don qu'avaient ces personnes en voulant vivre la vie religieuse, et puis parfois souvent de structurer ces communautés pour qu'elles puissent durer dans le temps. C'est-à-dire que l'Église accompagne les fondations des religieux. Si vous regardez bien l'histoire de la vie religieuse, il y a toujours un fondateur avec un charisme très fort qui emmène avec lui d'autres personnes. Et puis l'Église, elle reçoit cela, elle accompagne et elle ordonne, elle organise, elle aide l'organisation de ces communautés pour qu'ils puissent durer dans le temps que Dieu veut. Parce que les communautés religieuses ne sont pas promises de durer jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour du Christ en gloire. Il y a des communautés religieuses qui naissent et puis qui meurent, et ce n'est pas un problème en soi. Voilà. La grandeur des conseils évangéliques, numéro 46. Ce que l'Église dit, c'est que ce n'est pas parce que il y a des personnes qui vont renoncer à des biens légitimes, à des choses légitimes, comme par exemple le mariage, avoir un certain confort matériel ou une certaine autonomie, c'est-à-dire par rapport à l'obéissance, une certaine autonomie. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vont vivre ça qu'ils ne vont pas devenir des hommes et des femmes épanouis. Au contraire, quand c'est un appel de Dieu et quand c'est un choix personnel qui est fait, ces personnes-là, au contraire, vont grandir en humanité, vont être... des exemples même d'humanité, et on en a de multiples exemples dans l'histoire de personnes qui, grâce à ça, deviennent des hommes et des femmes exemplaires, y compris humainement. Et puis aussi, l'Église rappelle que grâce aux nombreuses communautés religieuses, aux nombreux religieux et religieuses dans le monde, eh bien, dans le monde, justement, s'est développé de nombreuses écoles, des hôpitaux, des missions qui ont permis de secourir les plus pauvres, de les aider à avancer, de les enseigner, etc. Et ça reste un embellissement extraordinaire de la vie de l'Église. Parce que l'Église, grâce à ça, rayonne d'une bonté qu'elle n'aurait pas pu probablement manifester s'il y avait eu simplement que des gens mariés à s'engager, puisque la vie du mariage... et à des exigences propres qui fait qu'on n'est pas aussi disponible. Donc il y a une grande disponibilité dans cette consécration qui est, pour l'Église, une fierté et puis un embellissement de la vie de l'Église. Et encore aujourd'hui, eh bien, on sait que ça continue. Il suffit de penser, par exemple, aux sœurs de Mère Teresa, tout le bien qu'elles ont fait et qu'elles continuent à faire, que ce soit dans les pays de l'Est, en Russie, etc., où elles se sont développées très très vite, mais aussi, bien sûr, en Inde, dans des pays qui ont besoin de la présence de l'Église. Voilà. Passons au chapitre 7, le caractère eschatologique de l'Église en pèlerinage et son union avec l'Église. Bon, ce que rappelle l'Église à travers ce passage, c'est que notre vie, il ne faut pas la vivre qu'en fonction de la vie sur Terre. Notre vie, elle est en fonction de l'avenir, de notre mort et du ciel. Et que l'Église s'épanouira complètement qu'au ciel. Et donc, il y a une orientation de vie qu'il ne faut surtout jamais perdre, même si on doit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire tout notre possible pour bien vivre sur Terre, au contraire. Mais il faut quand même savoir que l'Église est orientée vers le ciel et que nous sommes aussi orientés vers le ciel. Et qu'il y a, c'est juste, ça c'est pour l'avenir, mais c'est aussi pour le présent, parce que déjà l'Église, aujourd'hui, a un contact réel avec le ciel. Alors ça se manifeste de deux manières, le contact, la prière pour ceux qui sont partis au ciel, les défunts, donc qui est très présente dans l'Église catholique, les défunts, les saints et les martyrs, quand on prie pour la Vierge Marie, mais aussi tous les saints et les martyrs. Donc ça, c'est un contact avec le ciel qui nous prépare au ciel, déjà. Et puis enfin, la liturgie, où on a aussi le contact avec le ciel. Donc, nous sommes invités à ne pas oublier cela, et au contraire, à continuer à vivre cette dimension de la prière, du lien avec le ciel. Je vais vite, alors... Le concile encourage un culte authentique des saints, qui n'est pas uniquement de multiplier des actes extérieurs de prière ou de dévotion, mais qui est aussi de pratiquer un amour fervent à l'exemple des saints, c'est-à-dire que les saints soient vraiment nos modèles et qu'ils nous accompagnent. La fréquentation des habitants du ciel nous aide à vivre notre vie chrétienne. Donc il ne faut pas oublier les saints. Et c'est vrai qu'en lisant ça, je me disais que peut-être faut-il, même si c'est, il faut pas oublier, enfin, il faut continuer à partir vraiment de la parole de Dieu, mais en même temps, la vie des saints, c'est la parole de Dieu vécue par des gens comme nous. Donc c'est intéressant. Et il faut continuer à regarder la vie des saints sans l'embellir, trop, parce que quand on l'embellit trop, on a l'impression qu'on ne sera jamais comme eux, on ne pourra jamais être des saints, mais sans non plus l'oublier, parce que justement, il nous témoigne qu'il est possible de vivre notre vie chrétienne d'une façon belle, telle que Dieu veut, et donc de devenir des saints. Voilà. Chapitre 8, c'est le chapitre sur la Vierge Marie, Mère de Dieu dans le mystère du Christ et de l'Église. Alors, ce chapitre a toute une histoire, parce que quand il a commencé à être travaillé par les pères au moment du Concile Vatican II, eh bien, au début, on espérait, enfin certains souhaitaient qu'on fasse un document spécial, comme une constitution, là, un document spécial sur la Vierge Marie, à cause de son importance pour l'Église. Il y a eu des gros débats très houleux, et finalement, les pères, les évêques ont voté pour que le document sur la Vierge Marie soit intégré au document sur l'Église. Donc c'est le dernier chapitre du document sur l'Église qu'on vient de lire. Alors, il faut, le jour où ça a été voté, certains évêques sont sortis du vote en pleurant. Parce qu'ils se disaient, c'est pas possible, on va oublier la Vierge Marie. Ça va être noyé dans le reste. Or, bon, ce n'est pas le cas. La Vierge Marie, l'avantage de l'avoir mis dans le document sur l'Église, c'est que la Vierge Marie est placée dans l'Église. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en dehors de tout ce qu'on a dit sur la communion des saints, la communion entre nous, la communion dans l'Église, mais elle est placée dans l'Église. Alors, on voit que ce chapitre 8, puisque j'ai mis tout le plan, est beaucoup plus long et plus détaillé que les autres chapitres. Donc c'est plus développé. Alors, la première chose qui nous est dit, c'est que Marie est membre de l'Église, comme nous. C'est qu'elle est de la famille. Elle est complètement de la famille. Donc il y a une introduction, une première partie, c'est une introduction, la Vierge Marie dans le mystère du Christ, qui nous dit que... si on parle de la Vierge Marie, c'est bien sûr à cause de Jésus qui a pris chair en elle. Et grâce à son oui, le oui de Marie, eh bien, on a Jésus, Dieu a pu venir parmi nous en Jésus. Donc, il nous est dit aussi que la Vierge Marie est membre de l'Église et que, en tant que membre, donc elle est de notre famille, mais qu'en même temps, elle est saluée comme étant un membre, alors là je cite, oui, mais c'est marqué sur votre feuille, comme un membre suréminent et absolument unique de l'Église, modèle et exemplaire. admirable. C'est-à-dire que Marie, c'est vraiment celle qu'il nous faut contempler d'une façon particulière, qu'il nous faut prier d'une façon particulière, en raison de ce qu'elle a vécu et nous le savons, en raison de son oui. Le oui de Marie, exceptionnel, mais qui n'est pas un oui du moment de l'Annonciation, comme, même si c'est déjà important, comme simplement une mère porteuse, mais vraiment un oui qui est un oui de toute sa vie, et un oui qui a été difficile à vivre à certains moments, comme dans notre vie, notre propre vie, il n'est pas facile toujours de dire oui à Dieu. Ensuite, il y a l'intention du Concile. Alors, le Concile n'a pas l'intention de faire, au sujet de Marie, un exposé doctrinal complet. C'est-à-dire que, quand on lit ce passage, que je vous conseille de le lire d'ailleurs, il ne s'agit pas pour le Concile de faire un résumé de la foi, de tout ce qui se dit sur Marie. Ce serait trop vaste. Et puis, surtout, le Concile veut laisser aux théologiens, aux mystiques, aux chrétiens, leur propre relation avec Marie, de développer leur prière, leur méditation. Voilà. Dans la deuxième partie, on décrit le rôle de la Vierge dans l'économie du salut. Alors, il y a le paragraphe 55 qui est un peu surprenant, parce que c'est marqué « La mère du Messie dans l'Ancien Testament ». En fait, ce que montre le Concile, c'est que, comme Jésus a été annoncé dans l'Ancien Testament, comme le Messie, de la même manière, les prophètes ont annoncé aussi que la Vierge Marie, qu'il y aurait une femme qui aurait une place particulière, c'est la Vierge Marie, que le Messie donc viendrait par elle. Donc l'Ancien Testament nous a préparé aussi à la Vierge Marie. Alors Marie à l'Annonciation, bon, c'est une méditation sur le fait que Marie, au moment où enfin, Dieu l'a choisi librement, déjà. Dieu l'a choisi librement. Et que Marie a dit un oui aussi très libre. Qu'elle n'a pas été contrainte par l'ange du ciel. Mais que son oui était libre. Et que, donc, elle a vraiment fait un vrai choix de vie en disant oui. La Vierge Marie est l'enfance de Jésus. Donc, on reprend dans ce passage l'évangile de Luc, qui est l'évangile de l'enfance, le début de l'évangile de Saint-Luc, qui est l'évangile de l'enfance, et puis l'Église insiste sur le fait que Marie est un modèle, dans le sens où il est dit que Marie gardait tout cela dans son cœur et méditait. Donc c'est un modèle pour nous, parce que nous sommes appelés à sa suite à faire comme elle. Ensuite, au paragraphe 58, la Vierge Marie dans le ministère public de Jésus, eh bien Marie et rester fidèle à Jésus dans tous les événements, surtout au moment où tout le monde avait quitté Jésus, pratiquement tout le monde avait quitté Jésus, mais Marie était là, debout, au pied de la croix, elle n'était pas effondrée, elle gardait la confiance en Dieu. Ensuite, Marie après l'ascension, je m'aperçois qu'il manque un numéro dans votre feuille, hein, 59, numéro 59, la Vierge Marie après l'Ascension. Donc, c'est simplement pour dire que la Vierge Marie priait avec les apôtres et attendait le Saint-Esprit, même si elle l'avait déjà reçu. Le Saint-Esprit, c'est toujours quelqu'un avec qui il faut avoir une relation continuelle et donc toujours chercher à le recevoir davantage et à vivre davantage avec lui. Et Marie priait avec les apôtres. Et elle fait donc partie vraiment du corps de l'Église. Ensuite, la Vierge Marie et l'Église. Ça, c'est la troisième partie. Donc, Marie est servante du Seigneur. Le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque et ne diminue en rien cette unique médiation du Christ. Il en manifeste au contraire la vertu. Donc, c'est quelque chose de très important de rappeler, c'est que certains pensent que Marie, si on se tourne trop vers Marie, on va oublier que c'est Jésus l'unique médiateur et c'est lui seul qui nous sauve. L'Église rappelle que non, c'est Jésus qui nous sauve, il n'y a que Jésus qui nous sauve. Mais Marie a tellement bien dit oui qu'elle nous aide à aller vers Jésus et à accueillir le salut de Jésus. Et que Marie, par son oui, le oui de toute sa vie, est associée au Seigneur, c'est le paragraphe suivant. Elle apporte à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareil. Son oui a permis vraiment le salut, que le salut vienne dans le monde et que elle est l'exemple même de celle qui s'associe qui coopère avec la grâce de Dieu. Marie, mère de la grâce, donc c'est toujours cette même idée que Marie, par sa prière, par son oui, à la suite de l'Annonciation, par sa prière, nous aide à accueillir la grâce de Dieu. Elle nous recommande à Dieu et elle nous donne de pouvoir accueillir la grâce dans notre vie. Donc Marie est subordonnée au Christ, c'est-à-dire c'est le Christ qui nous sauve, mais en même temps Marie nous aide vraiment à vivre de la grâce de Dieu. Marie est un modèle pour l'Église parce que, alors comme le disait saint Ambroise, de l'Église, comme l'enseignait saint Ambroise, la Mère de Dieu est le modèle dans l'ordre de la foi, la charité et la parfaite union au Christ. Donc pour nous, contempler Marie, c'est pas la prendre comme quelqu'un d'inaccessible, mais c'est vraiment quelqu'un qui peut nous aider à vivre aussi de la foi et de la charité dans notre vie. Voilà, Marie, Mère et Vierge. Voilà, et puis l'Église et l'imitation des vertus de Marie. Donc, lorsque l'Église prêche l'Évangile, eh bien, c'est toujours en Marie qu'elle voit la réponse parfaite à l'Évangile. Donc, c'est toujours. Dans l'Écriture sainte, il y a peu de passages où on parle explicitement de Marie, mais tous ces passages sont très bien choisis. Enfin, c'est des passages très signifiants. C'est pas du tout du passage comme ça, en passant, on parle de Marie, mais non. Ils sont importants à méditer. Donc le culte de la Vierge Marie dans l'Église. Alors, la base, dès le début, les chrétiens se sont tournés vers la Vierge Marie, dès le début, mais ça s'est développé surtout au moment où il y a eu les grands débats sur l'Église, et on s'est demandé, sur le Christ, et on s'est demandé si Jésus était vraiment Dieu. Et quand on a vu que Jésus était vraiment Dieu, on s'est dit, on ne peut pas couper Jésus en deux en disant, il est homme, donc Marie, elle est la mère de Jésus homme, et puis Jésus Dieu, ben c'est autre chose. Non, Jésus est à la fois homme et Dieu, on ne peut pas couper en deux, et donc Marie est considérée comme, à juste titre, comme la mère de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a s'est développé beaucoup le culte de Marie. Marie, la théotokos en grec, la mère de Dieu. Et c'est pour ça que s'est développé le culte, en particulier dans la liturgie, de Marie. On a prié de plus en plus Marie comme mère de Dieu. Et que les pères de l'Église ont beaucoup médité là-dessus. Alors, depuis les temps le plus reculé, la Bienheureuse Vierge est honorée sous le titre de la Mère de Dieu. Voilà. L'esprit de la prédication et du culte de la Vierge Marie, elle invite en même temps les fils de l'Église à porter un secours généreux au culte, surtout liturgique, envers la Bienheureuse Vierge Marie, et à faire grand cas des pratiques d'exercice de piété. Donc, ce qui est encouragé, c'est que l'Église encourage la prière à Marie, que ce soit dans la liturgie, que l'on se confie à Marie, que l'on prenne Marie comme notre modèle, comme notre mère, etc. Et encourage aussi les exercices de piété. Donc dans les exercices de piété, ben, il faut voir toutes les prières qu'on peut faire à la Vierge Marie d'une façon très libre, et en particulier, une prière qui a un statut très particulier dans l'Église, c'est le rosaire, la prière du chapelet du rosaire, hein, où il y a plusieurs documents, carrément des papes, pour encourager cette prière, ce qui est quand même pas commun, y compris du dernier pape Jean-Paul II. Et enfin, la cinquième partie, Marie, signe d'espérance, de consolation pour le peuple de Dieu en marche. Donc Marie, comme elle est déjà parvenue au ciel, elle est un signe d'assurance, d'espérance et de certitude que le ciel est possible et que elle est déjà, le Christ est passé, elle est passée, les saints l'ont suivi et nous-mêmes nous pouvons la suivre. Et enfin, dernier paragraphe, c'est sur Marie et l'union des chrétiens, donc c'est simplement pour des questions œcuméniques. Et ce que dit le Concile, c'est qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas catholiques qui prient Marie, et en particulier, c'est marqué, chez les orientaux. Hein, donc c'est les orthodoxes qui ont une très très grande dévotion à Marie, très grande attachement à Marie. Et donc l'Église se réjouit de cela, et l'Église dit que Marie n'est pas un obstacle pour l'unité des chrétiens, mais c'est elle qui va nous aider à avancer dans l'unité des chrétiens. Il ne faut pas avoir peur d'aimer Marie et de se confier à elle, et de confier la cause de l'unité des chrétiens, de lui confier la cause de l'unité des chrétiens. Voilà, alors c'est vraiment très très rapide, mais ce qui est important, c'est que l'Église encourage toute l'Église, tous les chrétiens, tous les baptisés, à se confier à Marie, à prendre vraiment Marie, à lui donner une place très particulière dans sa vie.